Je me suis efforcé la dernière fois, vous vous en souvenez, de mettre en perspective ce qui me paraît être le cœur de la crise de la démocratie que nous essayons de cerner. Elle est en dernier ressort une crise de méconnaissance. La décantation de la structuration autonome caractéristique fondamentale de la période qui s'est ouverte avec le tournant des années 1970 a libéré la place d'une société de la connaissance organisée autour du déploiement du complexe juridico-technico-marchand, société de la connaissance qui est simultanément une société de la méconnaissance. Et pas n'importe quelle méconnaissance, la méconnaissance des conditions de concrétisation de l'universalité abstraite. Ce processus de concrétisation de l'universalité abstraite constitue l'essence de la modernité autonome, à la fois dans l'ordre juridique, en ce qui concerne le statut des personnes et les modalités de leurs liens, dans l'ordre scientifico-technique, en ce qui concerne le rapport à la nature, dans l'ordre économique, régi par l'abstraction monétaire, en ce qui concerne la sphère de la production et des échanges de biens et de services. Or, ce processus est aveugle à ses conditions de possibilité, à ses retombées et à ses limites. Il tend à dissoudre ce qui le rend possible. Il ignore les effets de dissociation qu'il a pour ses acteurs. Il tend à nier l'impossible autodestructeur qu'il habite. Imaginons cette dynamique juridico-technico-marchande allant au bout d'elle-même, elle engendrerait un monde politiquement intenable, personnellement invivable et écologiquement insoutenable. En un mot, ce processus de concrétisation de l'abstraction, pour faire court, ne se pense pas. Tout tissé de savoir raisonner qu'il est, il est anti-réflexif. En quoi il appelle un travail de critique, au sens fondamental du terme, au sens kantien, introduit par Kant en tout cas, ou encore un travail d'auto-réflexion. Nous verrons les raisons qui me paraissent rendre préférable ce concept. Un travail d'auto-réflexion destiné à éclairer ses conditions de possibilité en amont et ses limites en aval, de manière à le rendre ainsi maîtrisable politiquement et humainement vivable. Car il n'est pas question de se passer de ces savoirs positifs ou de les dépasser. Ils sont l'autonomie, le pouvoir de se diriger par la raison. Ils sont une part de l'autonomie dont elle ne saurait se passer. Mais l'autonomie véritable suppose aussi autre chose. Autre chose qui exige l'auto-réflexion pour parvenir à quelque chose comme une démocratie authentique, une démocratie qui sait ce qui la permet et qui connaît les limites à l'intérieur desquelles l'autoconstitution du monde humain social est tenable. Là est le pas supplémentaire que réclame l'autonomie structurelle dans laquelle nous venons de basculer. Aussi, ce problème de la méconnaissance demande-t-il à être reconnu à sa juste portée. Il a fait l'objet d'une première problématisation chez Marx, problématisation qui constitue à bien des égards une amplification en même temps qu'un renversement de la critique de la naïveté des Lumières chez Hegel, problématisation à laquelle on doit reconnaître le mérite d'avoir mis ce facteur en évidence. La raison ne suffit pas, les principes du droit et l'idée de progrès tels qu'ils ont présidé exemplairement à la Révolution française peuvent tromper sur les conditions réelles du fonctionnement collectif. On ne peut ignorer les acquis de cette critique. Ils ont d'ailleurs été incorporés pour partie dans le fonctionnement même de nos sociétés, au travers de l'État social, destiné à corriger les insuffisances ou les mensonges, on peut les prendre dans les deux sens, du droit formel. En même temps, la problématisation marxiste de la méconnaissance inhérente à la société capitaliste et à la domination de classe bourgeoise, problématisation qui, de manière avouée ou inavouée le plus souvent, continue d'irriguer une grande partie des théories dites critiques, quelque peu abusivement. Cette problématisation fonctionne désormais comme un écran au regard de la situation nouvelle que nous connaissons. Elle empêche de donner à la question toute son ampleur et sa profondeur. L'enjeu de la méconnaissance, convenablement apprécié, va autrement plus loin qu'une conjoncture historique caractérisée par le mode de production capitaliste et la domination de classe. Le témoignage de l'histoire est que la méconnaissance est ou a été inhérente à la condition humaine sociale. Pour la résumer d'une phrase, ce qui nous fait exister tend à nous tromper sur ce que nous sommes. Avec ce correctif intéressant, application directe du principe d'autoréflexion, qui est que nous sommes capables de nous en rendre compte. C'est cela la critique ou l'auto-réflexion. Et de ce fait, nous sommes capables de surmonter cette infirmité native dans une mesure qui reste à déterminer. Nous sommes l'espèce capable d'apprendre de son expérience. cela va être le moment ou jamais de mobiliser cette plasticité, comme on aime à dire aujourd'hui. Si l'idée nietzschéenne que l'homme est une créature faite pour être surmontée, c'est ici que l'idée peut trouver une application pertinente. Le témoignage de l'histoire, disais-je, quel témoignage ? Cette propension à la méconnaissance s'est incarnée millénairement dans la méconnaissance hétéronome, suspendant l'existence collective à une extériorité surnaturelle. Une méconnaissance qu'on ne saurait assimiler à un état d'enfance, mais qui possède de profonds motifs de structure qui font qu'elle résiste. L'actualité en témoigne assez. Enracinement qui fait conclure à certains bons esprits, je pense en particulier à Régis Debray, dont les positions ont sur ce chapitre l'avantage de la clarté, que cette dépendance hétéronome est indépassable, constitutive, tout au plus susceptible d'une relative éclipse, comme celle que nous connaissons actuellement en Europe. Simple parenthèse destinée à se refermer bientôt. Erreur totale, à mon sens, mais erreur intéressante, à la différence de beaucoup d'autres, car des vérités sans intérêt et des erreurs intéressantes. Le miracle européen, qui vaut bien le miracle grec, même si les Européens d'aujourd'hui s'en montrent peu dignes, il faut en convenir, est que nous sommes parvenus à sortir de la méconnaissance religieuse. Nous en sommes sortis structurellement, c'est-à-dire avec des bases solides. C'est à cela que peut se ramener le bilan des 5 siècles de modernité. Mais nous sommes en train de découvrir que nous n'en sommes sortis que pour tomber sous le coup d'une autre espèce de méconnaissance, tout aussi structurelle que la précédente. Une méconnaissance inscrite dans les rouages de la structuration autonome. Mieux, une méconnaissance véhiculée par les savoirs positifs et rationnels issus du désenchantement du monde, qu'il s'agisse du désenchantement de la condition politique, du désenchantement de la nature pour les sciences et les techniques, ou le désenchantement de l'action humaine pour le calcul économique. C'est ce que nous avons vu la dernière fois à propos du politique. En régime de religion, le politique était impensable comme tel, puisqu'il apparaissait comme une émanation du ciel, comme l'expression terrestre de la transcendance souveraine des dieux. Le fait stupéfiant et qu'il redevient impensable aujourd'hui. Une fois complètement déployé dans sa version autonome et dans sa fonction instituante et médiatrice, il se fait invisible. Il disparaît derrière la politique. La politique et les savoirs qui lui sont associés, qu'il s'agisse du droit public ou constitutionnel, ou qu'il s'agisse des différentes sciences positives du processus politique. La politique occupe en apparence toute la place, avec les effets de brouillage et de clivage, de déshérence de la politique et d'impuissance démocratique que nous avons vu. Est-ce à dire que nous avons en somme le choix entre deux formes de méconnaissance, la méconnaissance hétéronome et la méconnaissance autonome? Nullement. Elles ne sont pas équivalentes. Pour l'excellente raison que la méconnaissance autonome autorise sa critique, sa mise en lumière et par conséquent la possibilité de la surmonter. Mais ceci à la condition de la reconnaître pour ce qu'elle est. Nous pouvons imaginer, nous en avons vu d'ailleurs, même dans l'actualité récente, des éclairs, des aperçus, nous pouvons imaginer une version de la politique qui intégrerait le politique et qui saurait se débrouiller avec les incidences égarantes du droit sur la vie collective. Persuadons-nous d'une chose, nos démocraties sont dans l'enfance. Rien de plus faux que ce cliché qui les présente sous le signe de la sénescence ou d'un automne fatal. Elles balbutient, elles débutent, elles peinent encore à reconnaître leurs exigences élémentaires. C'est cet inventaire de la méconnaissance que nous avons à poursuivre donc à propos du droit et à propos de l'orientation historique. Je disais à propos du politique, enlever la domination, c'est-à-dire, dans la rigueur du terme, le pouvoir exercé en vue de la subordination de l'ordre collectif à une idée transcendante, dans le cadre de ces formes politiques bien définies que sont la cité, le royaume ou l'empire, et il reste le fait du pouvoir. Pouvoir exercé, certes, par représentation, dans le cadre de cette autre forme politique bien définie qu'est l'État-nation, mais pouvoir qui reste et doit rester un pouvoir. Il est de l'intérêt collectif qu'il le reste. Comme il est de l'intérêt collectif que la forme de communauté politique où il s'exerce reste celle de l'État-nation. La tâche politique démocratique consistant dès lors à rendre ce pouvoir de mieux en mieux appropriable par la communauté politique et à rendre la forme État-nation de mieux en mieux individualisable et par conséquent ouverte sur un monde d'individus, mais dans le respect de ses contraintes d'existence et de fonctionnement, sans tomber dans le simplisme consistant à faire comme si elle n'existait pas. De la même façon, enlever l'incorporation aux listes et la hiérarchie, il reste l'appartenance que la logique spontanée du droit tend à occulter. Je parle ici du droit, bien sûr, au sens des droits fondamentaux, hein, du droit des individus également libres. Et de la même façon encore, enlever la tradition, l'obéissance au passé, il reste l'histoire, c'est-à-dire l'exigence d'une liaison intelligible des temps. Liaison des temps que l'invention pratique de l'avenir, sous l'aspect hégémonique du dynamisme automatique du système économique, tend à recouvrir et à faire perdre de vue. L'appartenance, qu'est-ce à dire? Cette appartenance que l'incorporation holiste, la subordination de l'atome individuel au groupe, laisse derrière elle, une fois dissipée et complètement dissipée. L'appartenance, ce n'est pas un fait simple, et là est le problème. C'est une articulation. L'articulation entre association et individuation. Individuation, qui est un phénomène psychique, ou biopsychique, si l'on veut, individuation étant à distinguer de l'individualisation qui est un phénomène social, social, juridique, politique. L'humanité est constituée, depuis qu'elle existe, pour autant que nous le sachions, d'êtres individués, conscients d'eux-mêmes, de leur singularité, de leur choix et de leurs intérêts. Difficile de douter, pour prendre le problème dans l'autre sens, que les peintres de la grotte Chauvet étaient fortement individués et probablement très conscients de talents d'exception, comme leur groupe l'était tout autant. C'est pas l'homme préhistorique moyen qui a fonctionné dans l'occurrence. Sauf à supposer que nous avons bien dégénéré depuis. cela n'en faisait pas des individus au sens juridique, social et politique qui nous est familier. Cette individuation est inséparable de la association. C'est dans la mesure où nous sommes sociaux que nous sommes individués. Ne serait-ce qu'au titre d'être parlant, partageant une ou des langues particulières. Nous sommes les animaux les plus individués parce que nous sommes les plus sociaux. Il est des auteurs pour parler d'ultra-socialité. À ce propos, notre individuation prend corps à l'intérieur d'un cadre social qui en reçoit en retour davantage de force de liaison. Une société humaine est bien plus solide, en dépit des apparences, qu'une horde de loups. Mais, là commence le problème, cette articulation est par essence problématique. Elle lie des termes difficiles à tenir ensemble, bien qu'inséparables. C'est ce dont l'expérience historique nous apporte le témoignage. Elle nous offre le spectacle d'une alternative. Ou bien l'association, ou bien l'individuation. D'un côté, religion, structuration hétéronome, le privilège radical de l'incorporation sociale, qui n'empêche aucunement l'individuation, mais qui la cantonne dans les limites de la soumission à la loi du groupe. De l'autre côté, la structuration autonome, dans la version complète que nous lui connaissons depuis quelques décennies, l'individualisation juridique, autrement dit, la déliaison des individus de droit, qui tend à masquer l'appartenance et à masquer, très prosaïquement, l'énorme travail de socialisation concrète que suppose cette individualisation par l'abstraction juridique. Je ne reviens pas sur les incidences politiques de cette formule. Nous avons amplement examiné. Ce que je voudrais juste cerner davantage, c'est la nature de la méconnaissance que tend à sécréter l'individualisation juridique. Elle tend à accréditer chez les acteurs la conviction d'exister immédiatement et en quelque sorte naturellement, par eux-mêmes, dans leur indépendance ou leur déliaison. Ce qui, biologiquement, n'est pas douteux, mais ce qui escamote précisément le fait que l'espèce humaine est une espèce culturelle en plus d'être une espèce naturelle. Cet individu prétendument naturel, qui serait posé là d'abord depuis toujours, est l'illusion par excellence de notre moment culturel. Et une illusion grosse de conséquences et de retombées pratiques considérables. Je vais en évoquer quelques-unes, nous en avons croisé d'autres en cours de route. Le tableau complet nous emmènerait loin, mais ces quelques exemples suffiront, j'espère, à vous donner la direction dans laquelle on pourrait dresser ce tableau. Par exemple, cet individu conçu comme naturel est potentiellement inéducable, au sens où l'éducation n'est plus pour lui la condition ou la clé du devenir individu qu'elle était. Il n'a pas à devenir individu puisqu'il l'est déjà. L'âge d'or de l'éducation moderne, on le voit bien rétrospectivement, a correspondu à cette phase de transition et de compromis où l'incorporation holiste conservait son rôle structurant, mais en faisant place en son sein au développement des principes individualistes. S'éduquer dans ce cadre, à la différence du simple être éduqué, en fait être socialisé antérieur, par imposition des codes sociaux, c'était s'approprier la culture vous permettant de vous affirmer comme acteur social de plein exercice au sein de la communauté régie par cette culture. Et c'était, au-delà de cette première étape, se mettre en position d'accéder à la communauté universelle des êtres de raison. Il fallait en passer par là pour accéder à une pleine individualisation. Quand vous êtes naturellement un individu de droit, l'éducation n'a plus pour portée que celle d'un épanouissement de cette individualité et d'un accroissement de vos moyens personnels. C'est un apport qui peut être considérable, mais c'est un apport facultatif. Il n'est plus constitutif. Le fait d'en être dispensé ne vous privera pas de la qualité d'individu de droit. La méconnaissance, en l'occurrence, est engendrée par le droit et porte sur la nature même du droit, toujours dans l'acception fondamentale du terme. Le droit masque sa propre nature de droit d'une société. Je le disais lorsque nous avons eu à traiter cette question, vous vous en souvenez peut-être, le droit des individus est à regarder comme un principe de composition d'une société, posant en tant que société qu'elle est constituée exclusivement d'individus de droit. Mais cette opération tend à se voiler pour ce qu'elle est, en faisant croire à l'existence indépendante des individus définis socialement de la sorte. Pour le dire en d'autres termes, le droit est une médiation, là aussi. Il définit une relation entre la société et ses composantes individuées. Une relation qui les fait accéder à l'individualisation sociale et politique. Mais cette médiation, comme la médiation politique, tend à se dissimuler comme médiation en accréditant la fiction d'une immédiateté de l'existence séparée de ces individualités juridiques. La méconnaissance vient se loger ainsi dans le mécanisme même de l'individualisation juridique. C'est que ce principe de légitimité est intrinsèquement difficile à penser, comme la formule de la société des individus dans son dédoublement entre individualisation du social et socialisation des individus. L'individualisation juridique n'est pas seulement difficile à penser, elle est aussi difficile à vivre, sans songer à ignorer une seconde ses immenses bénéfices en termes de liberté et de protection personnelle. Elle nous fait une vie dédoublée, dont la conciliation entre les deux versants est tout sauf simple. Elle nous sépare de nous-mêmes. Elle nous dissocie entre une vie où nous sommes n'importe qui, des êtres de droit abstraits, uniformes, anonyme et interchangeable, et une vie où nous sommes nous-mêmes, comme par une tautologie très significative, nous-mêmes, c'est-à-dire des êtres concrets, irréductiblement singuliers à nos propres yeux, comme à ceux des autres qui nous entoure, mais même pas forcément. L'avancée de l'abstraction juridique dans l'esprit des acteurs et dans le fonctionnement collectif a conduit à développer chez les modernes, individualisés en plus que d'être individués, un sens parfaitement original historiquement de leur identité personnelle, de leur intériorité propre, ce qui précisément de leur expérience intime échappe à ce regard juridique abstrait extérieur, mais aussi un sens parfaitement original de l'intériorité de leur pareil à déchiffrer. La vie sociale extérieure, selon le droit, c'est-à-dire l'équivalence impersonnelle des êtres, a révélé, par contraste, une autre vie concrète au-dedans. Une vie concrète faite, elle, de singularité et de qualité spécifique. Nous sommes devenus des êtres psychologiques parce que nous sommes par ailleurs des individus juridiques. Mais les deux ne font pas nécessairement bon ménage dans les mêmes têtes. Ce sens de la singularité des êtres qui s'est aiguisé à côté et grâce à leur identité juridique ne s'est pas borné à ouvrir un domaine d'expérience intérieure et un champ culturel, psychologique. Le mot même, je vous le rappelle, ne s'accrédite véritablement dans les cultures européennes qu'à partir du XIXe siècle, et encore tardivement. Ce sens de la singularité des êtres a transformé de fond en comble le domaine des relations interpersonnelles, en conduisant notamment à une valorisation inédite de l'amour. L'amour, c'est-à-dire la relation entre des êtres où n'entre en jeu que la reconnaissance mutuelle des singularités. Relation de ce fait parfaitement singulière elle-même, parfaitement indéfinissable et parfaitement privée. Privée dans le sens non pas juridique du droit privé, mais dans le sens de l'intime. Bon, on voit ici précisément ce qui le différencie du privé juridique. Le mariage d'amour, comme idéal social, n'est pas contemporain par hasard de la Déclaration des droits de l'homme. Les deux n'ont strictement rien à voir ensemble à première vue. Et cependant, ils sont corrélatifs. Les deux scènes, la scène juridique et la scène psychologique, ont cheminé en parallèle depuis deux siècles, sous le signe de la tension entre les deux registres d'expérience. Cette tension a pris récemment un nouveau tour, un tour exacerbé, avec la consécration du principe de légitimité moderne et des droits de l'individu. et avec la retombée psychologique majeure de cette intronisation de l'individu de droit. L'événement crucial de la psychologie contemporaine, nous avons essayé de le circonscrire l'an passé, réside dans l'appropriation subjective de ce statut d'individu de droit. Ou, si l'on veut encore, l'identification de l'individu à son être de droit. Elles ont eu pour effet de démultiplier ces tensions attachées à la dissociation de l'intériorité singulière et de l'extériorité juridique anonyme. Elles ont eu pour effet simultanément de brouiller le principe de la distinction entre public et privé qui est à la source de ces tensions. Vous voyez au passage la différence de climat moral entre la conjoncture totalitaire et la nôtre. C'est un bon terrain pour le mesurer. Ce qui dominait sous la conjoncture totalitaire, c'était l'aspiration des personnes elles-mêmes à résorber le psychique privé dans le politique, avec une forte tendance à penser que ces problèmes psychiques relevaient d'une intériorité petite bourgeoise, le mot d'époque, une intériorité petite bourgeoise destinée à être dépassée. Une aspiration, notons-le au passage, qui se retrouve aujourd'hui, mutatis mutandis, chez le djihadiste de base, en fonction d'une autre perspective, mais une perspective apparentée. Dans la conjoncture présente, ce qui domine, c'est la tendance à faire passer le privé psychologique au premier plan, jusqu'au point d'ignorer la différence avec le public juridique. Alors pourtant que celui-ci est la base de la construction. Jamais la différence entre le public et le privé, qu'il s'agisse d'ailleurs du privé juridique ou du privé intime, jamais cette différence n'a été aussi puissamment opératoire. Entendons par public l'ordre juridique et institutionnel officiel. Jamais cette différence n'a été aussi fonctionnellement présente dans le mécanisme de nos sociétés, et cependant, elle est brouillée dans l'esprit des acteurs. Tellement l'identification à leur être de droit a pour effet d'exacerber le sens de leur identité intime. Le résultat en est la frappante obsession de la reconnaissance qui travaille les rapports sociaux. Le sentiment permanent d'être ignoré ou méconnu pour ce que l'on est au sein d'un univers impersonnel, lequel univers impersonnel est la condition pour qu'il y ait des personnes dotées de ce sens de leur singularité. Il faut dire en outre, pour expliquer cette passion de la reconnaissance, passion inédite hein, dans le registre des passions démocratiques qui ont été explorées depuis longtemps, il faut dire en outre que la métamorphose de l'être ensemble, à l'intérieur de laquelle prend corps cette consécration de l'individu de droit, a pour effet, simultanément, de relativiser radicalement les existences individuelles. Cette métamorphose, en effet, extériorise le lien de société proprement dit par rapport aux individus en leur ouvrant ainsi l'espace où faire valoir leurs droits et leurs liens purement personnels. L'ancienne société et tout près de nous, les sociétés marquées par l'empreinte hétéronome étaient pesantes parce qu'elles faisaient reposer la responsabilité du lien de société sur les acteurs. D'où le caractère contraignant et codifié des rôles sociaux au travers desquels cette responsabilité s'exerçait. Nous sommes libérés de cette contrainte parce que la société se produit en dehors de nous, mais il y a un prix de cette liberté, sa rançon, c'est la parfaite indifférence de notre existence individuelle au regard de l'existence collective. L'illustration la plus saisissante en est la transformation de l'expérience de la mort et du deuil dans nos sociétés. Dans les sociétés marquées par l'hétéronomie, jusque encore une fois tout près de nous, la mort concernait tout le monde, d'une certaine manière, au sein d'une communauté donnée. Elle concernait l'existence collective elle-même, puisque le disparu était une pièce du mécanisme qui contribuait à perpétuer l'existence collective, qu'il y contribue d'une manière ou d'une autre, humblement ou grandement, peu importe. d'où le caractère hautement ritualisé du deuil qui marquait l'implication publique de cette perte. La mort a été radicalement privatisée ou intimisée. Ce n'est pas seulement que le plus grand nombre des décès ont désormais lieu à l'hôpital, en dehors de la vie ordinaire, 75% des décès à peu près dans la France d'aujourd'hui. C'est une part de l'explication, mais elle est seconde au regard de ressorts plus profonds. C'est que cet événement, la mort d'un être particulier, est indifférent à l'existence collective, qui se poursuit comme si le défunt n'avait jamais existé. C'est cela la solitude du mourant dans la société moderne. Et qu'il soit accompagné ou non, dans les circonstances du décès, n'y change rien. Le deuil ne concerne que les proches en dehors de tout rite, informellement. Et tous ceux, nombreux certainement parmi vous, qui ont eu cette occasion de se retrouver à quelques-uns autour d'une tombe dans un de ces no man's land que sont les espaces mortuaires d'aujourd'hui, a fait l'expérience de ce que cette condition représente de déréliction. Une situation, en tout cas, faite pour susciter les frustrations chez les êtres d'appartenance que nous demeurons et pour exacerber par réaction le désir de reconnaissance de cette identité privée créée par une société où en même temps elle trouve très difficilement place. Sinon sur le mode, lui aussi très singulier, de la culture de la célébrité. Donc, on pourrait explorer les incidences à partir de ce point précis. Je vais risquer ici une proposition qui demanderait bien davantage à être étayée, mais qui, j'espère, aura suffisamment de pertinence intuitive pour être parlante. Du point de vue de l'équation psychique des personnes, dont on peut dire qu'elle définit un type de personnalité contemporaine. L'articulation de l'individuel et du collectif, telle qu'elle fonctionne présentement, est porteuse du message suivant. Tu es toi-même, tant que tu veux, dans ton coin privé, c'est ton droit irréfragable, mais tu n'es rien au regard du fonctionnement de ta société. Elle peut parfaitement se passer de toi. Sous le régime de l'incorporation holiste, l'équation était inverse. Tu es ta société. Tu n'es rien par toi-même en dehors d'elle. Tu n'as à être que ce qu'elle te demande d'être. D'où une économie psychique construite autour d'un surmoi persécuteur, autour du devoir, autour de la culpabilité, mais avec la force de porter en soi sa société et de pouvoir parler pour elle, en son nom. Alors qu'à l'opposé, l'économie psychique de l'individu en droit d'être intimement lui-même gravite autour d'un narcissisme craintif et dépressif, générateur d'une individualité faible et vulnérable, hanté par son impuissance vis-à-vis de son monde et tiraillé entre la fuite dans la sphère intime et le besoin d'hypersocialisation privée. Rien à voir avec ce que pouvait représenter la solitude morale caractéristique, au contraire, de la socialisation ancienne. À sa façon, elle rendait les individus autosuffisants. Cette autosuffisance se marquant dans cet impératif de l'agir en conscience. Tu peux agir par toi-même en conscience parce que tu portes ta société en toi. Au regard de quoi nous avons affaire avec ce nouveau type de personnalité, a un besoin profond d'être avec les autres, d'être branché, connecté, mais à part de la société officielle. Ce qui n'empêche nullement le sentiment de solitude au milieu de cette socialisation privée et intense. Un sentiment de solitude qui est fait de ce sentiment profond de compter pour rien au regard du mécanisme collectif. Aussi bienveillant qu'indifférent. Ce que tout cela veut dire, c'est que nous ne sommes pas au bout de nos peines. S'agissant de régler cette articulation entre l'individuel et le collectif, entre l'individuation et l'association, entre le public, le privé, l'intime. Ce que nous pouvons en tout cas constater, c'est que cette articulation, intrinsèquement problématique, est destinée à le rester, dans tous les cas. Cette articulation est déréglée, ébrouillée par l'individualisation juridique. Contre le brouillage, il y a à faire réapparaître le caractère constitutif de ce lien. Il y a du privé ou de l'intime concret parce qu'il y a du public abstrait qui doit se voir reconnaître sa consistance indispensable. C'est ici, au passage, que l'on pourrait valablement traiter de ce qu'il est convenu d'appeler la crise des institutions. De quoi est faite cette crise ? Tout simplement du heurt de l'intime à des règles institutionnelles qui ne sont plus comprises ni assumées, éventuellement même par les acteurs de ces institutions, qui ne sont pas nécessairement mieux lotis que leurs usagers. Dans l'autre sens, le public abstrait se doit, et devant le rester, n'ayant de sens qu'à le rester, se doit d'intégrer l'existence de cet intime ou de ce privé concret. C'est une affaire de style, pourrait-on dire, des rapports sociaux. Dans tous les cas, sur le fond cette fois, il s'agit de parvenir à un équilibre entre des unilatéralismes, soit ce que l'esprit humain a le plus de mal à faire. On peut même dire ce qu'il répugne le plus à faire. Il est porté invinciblement, inexorablement, à ne voir qu'un côté des choses. Néanmoins, vous voyez qu'il y avait lieu de parler de miracle. Néanmoins, c'est ce que nos régimes sont parvenus tant bien que mal à institutionnaliser. Il y a, pour faire simple, une droite et une gauche, et en pratique des compromis entre elles. Mais officiellement, elles se méprisent, elles se détestent, et elles rêvent d'un monde où elles seraient débarrassées de leur adversaire. La question est de savoir si nous sommes capables de dépasser ce stade infantile pour reconnaître le caractère constitutif de ce genre de confrontation. Celle-là n'étant qu'une sorte de résumé ou d'agrégation des autres. Elles vont infiniment plus loin et plus profond que l'opposition droite-gauche, que je ne prends que pour sa facilité à illustrer spontanément le propos. Sommes-nous capables, à partir de là, de construire un programme délibéré et méthodique de recherche de ces équilibres et de ces compromis par-delà des divisions et des unilatéralismes qui persisteront et ne peuvent que persister. C'est dans cette voie que nous irions vers une authentique démocratie délibérative. Cette notion souvent invoquée dans le vide prendrait dès lors son sens efficace. C'est là que serait son objet. Son objet, c'est les compromis que les contradictions et les divisions inhérentes à l'existence collective et à l'existence des personnes peuvent trouver une issue constructive. Passons maintenant à l'orientation historique. Que je n'aurai pas, malheureusement, comme je l'espérais, le temps de traiter en son entier, mais nous aurons au moins abordé la face principale du problème. Même raisonnement, enlevons la tradition ou ce qui en subsistait de structurant. La tradition, c'est-à-dire l'autorité du passé garantissant la continuité substantielle des temps, ce qui a été à l'origine est et sera. Substituons entièrement à cette autorité du passé l'invention de l'avenir, nous y sommes. Et il reste le fait de la continuité des temps. Mais un fait qui prend dans ce contexte forme de question. Puisque le présent, là, diffère du passé, comme nous travaillons à ce que l'avenir diffère du présent. Une question, donc, puisqu'il s'agit dès lors de donner à cette continuité entre présent, passé et avenir, un contenu intelligible, seul à même de nous permettre de nous situer dans une histoire, au sens plein du terme. Or, nous l'avons vu, cette histoire, au sens plein du terme, a disparu. Entendons qu'elle a cessé d'être perceptible, qu'elle a cessé de constituer un axe organisateur, un référent, un indicateur de direction pour l'expérience collective. Elle s'est effacée au profit de l'économicisation de l'avenir, c'est-à-dire de la dynamique automatique de l'accroissement des richesses et de la puissance autosuffisante du technocosme humain social. Le passé, dans le même temps, se trouvant neutralisée par sa patrimonialisation, et le présent neutralisés par sa médiatisation. Jamais le passé n'a été autant à notre disposition dans ces attestations monumentales et documentaires. Jamais nous ne l'avons aussi bien connu techniquement. Mais il n'a rien à nous dire. De la même façon, jamais nous n'avons été aussi bien informés de ce qui se passe et de l'histoire en train de se faire. Jamais nous n'avons eu de tels moyens d'être présents à notre présent historique. Mais nous n'y sommes que présents, sous le signe d'une avalanche chaotique de nouvelles qui se juxtaposent et se chassent les unes les autres, sans former un devenir cohérent. Fonctionnellement, ce système est d'une efficacité remarquable. Il combine une efficacité symbolique inconsciente avec un strict positivisme au plan conscient. Qu'il s'agisse du positivisme de la science des faits économiques, du positivisme des techniciens du patrimoine ou du positivisme des techniciens de l'actualité, combinaison qui le rend imparable. Il justifie pleinement la notion de société de la connaissance. La production de l'avenir, la mise en mémoire du passé et l'accès au flux du présent sont entièrement tenus par leurs spécialistes. Ils font l'objet d'une saisie réfléchie, dirait Giddens, à un degré inégalé. D'où cet enthousiasme technophile. Nous avons beaucoup de manifestations. Nous ne sommes pas simplement dans la société de la connaissance, mais la société où on peut tout savoir. Et ce n'est pas faux. Et en même temps, il y a une autre face, jamais la méconnaissance qui vient doubler cette connaissance, opérationnellement indiscutable, n'a été aussi flagrante. Ce terrain de l'expérience du devenir fait ressortir avec plus de netteté encore que les autres ce qui sépare la réflexivité au sens ordinaire du terme, le recours à des savoirs méthodiques et professionnalisés, d'une auto-réflexion véritable. Car ce que ce système des temps sociaux élimine du paysage, c'est l'intelligibilité du devenir qui conditionne ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Il évacue la question de ce qui nous a permis d'en arriver là et de ce que représente la configuration collective où nous nous trouvons par rapport à d'autres dispositions réellement existantes ou possibles du monde humain social. Et ce n'est pas simplement que ce système ne se pense pas, c'est qu'il disqualifie l'idée d'avoir à se penser. Ces savoirs positifs autour desquels il s'organise, qu'il s'agisse, et il s'agit en priorité de l'avenir à produire, mais aussi bien du passé à enregistrer ou du présent à répercuter, ces savoirs positifs sont par construction étrangers et hostiles à ce genre d'interrogation. Le résultat en est que nous ne savons pas où nous sommes et que nous sommes du même coup incapables de nous diriger au sens littéral du terme, de nous orienter. Cette organisation des temps sociaux fabrique une part notable de l'impuissance que nous ressentons. Elle est créatrice d'une puissance opératoire incomparable, mais elle nous détourne de la vraie puissance qui est celle de se rendre un compte juste de sa situation et de se gouverner en conséquence. Ce qui, étant donné ce qu'est la condition temporelle de l'humanité, suppose de s'expliquer avec son histoire. Cette déprise d'avec la réalité de l'expérience du devenir se manifeste sur ce terrain-là aussi, au plus humble niveau quotidien, par un malaise multiforme. Ce passé neutralisé au profit de la mobilisation du présent en direction du futur technico-marchand n'en insiste pas moins dans le présent. Et n'en dissocie pas moins ces acteurs d'avec eux-mêmes. Ils se manifestent comme une hantise indéfinissable. Il fait que nous vivons avec le sentiment obscur de ne pas vraiment savoir qui nous sommes. C'est cette incertitude que viennent essayer de combler les revendications d'identité. Longtemps, l'identité a été ce dont on avait le moins à parler car il vous était donné. À partir du moment où s'instaure le champ de l'expérience historique sous le signe de l'orientation avec l'avenir, l'écart se creuse et le problème du rattachement au passé devient un problème, Mais, précisément, jusqu'à une date récente, ce rattachement au passé avait la forme d'un, et l'évidence, d'un lien généalogique où les lignées familiales se doublaient d'une sorte de récit de filiation élargi aux dimensions des collectivités. La nouveauté de notre situation, c'est que la distance qui s'est creusée entre passé et présent rend ce pont généalogique, pourrait-on dire, inopérant. Et le passé obscur révèle dans l'opération une autre profondeur. Il n'est pas seulement ce que nous venons prolonger, que nous le voulions ou non, il est ce qui nous a formés. Il est ce qui recèle le secret de ce qui a modelé notre singularité et qui colle si mal avec l'universalité abstraite qui guide sous ses différents visages notre action en direction de l'avenir. Quand Marx évoquait les fantômes grecs et romains qui pesaient sur le cerveau des vivants, entendons en l'occurrence les vivants d'alors, les révolutionnaires français qui croyaient réincarner les illustres modèles de l'Antiquité, il parlait de modèles illusoires qui empêchaient d'apprécier aux acteurs de la Révolution les réalités de leur présent. Les fantômes qui nous hantent, nous, sont d'une nature très différente. Nous ne les connaissons pas. S'ils sont des modèles, ce sont des modèles inconscients qui nous guident malgré nous et qui nous empêchent d'être ces acteurs pleinement rationnels qu'il nous est demandé d'être. La seule manière de les dompter, ces fantômes, c'est de les identifier par une anamnèse systématique qui permet en outre d'opérer le tri entre ce qui, dans cette insistance particularisante du passé, représente un frein dont il convient de se délivrer, et ce qui, au contraire, représente un atout susceptible d'être exploité. Le facteur perturbateur par excellence de l'action collective dans le monde où nous sommes, et la scène politique en offre une illustration pratiquement quotidienne, c'est que nous ne savons pas articuler l'action au présent et l'héritage du passé sous l'influence duquel elle se trouve, qu'elle le veuille ou non. Mais malaise aussi bien devant l'incompréhension de cette scène de l'actualité, de cette scène hypnotique de l'actualité, où le plus sensationnel n'émerge que pour être submergé quelques semaines après, sans qu'un fil puisse être tissé entre ces présents successifs, malaise aussi bien devant un avenir qui n'est plus concevable que sous deux figures qui le vident de sens, ou substantiellement la même chose, avec un plus, ou puisqu'il y a toutes les raisons de penser qu'il sera différent, une catastrophe infigurable. Non pas l'avènement d'un monde supposé transcender les divisions du présent, mais un monde fait de la dislocation inimaginable de ce qui, tant bien que mal, fonctionne dans le présent. Pour avancer sur ce terrain, il faut repartir de la spécificité de l'histoire telle qu'elle s'écrit et se fabrique chez les modernes, sous le signe de l'orientation historique, l'histoire qui se fait en conscience. Mais c'est justement, c'était mon projet initial que de reprendre ce problème à la racine, comme je crois que c'est là que se tient le levier majeur par lequel une issue de la situation présente de crise où nous nous trouvons se joue, il me paraît préférable de renvoyer cet examen un peu technique à notre prochaine séance qui aura lieu donc au terme, au début mai, après les vacances de printemps, des deux semaines qui viennent.
Vous avez abordé la bonne démocratie libérative. Alors, est-ce que vous pourriez préciser qu'elle vous dira des compromis, parce que le compromis de cette base, un peu chercher des compromis, et simplement consiste à retarder les solutions. Donc, quelle est la méthode de la démocratie délibérative à laquelle vous pensez aujourd'hui, quel est le sujet? Pas tellement à notre commune. Il y a ces blancs, ces noirs, et nécessairement à prendre une position moyenne. Alors on parle de démocratie délibérative, il y a des fois où il semble que ça a un sens, il y a d'autres fois où, parce que le nombre de facteurs, parce que les aussi on rencontre le futur et que les gens, lorsqu'ils délibèrent, ils délibèrent souvent sur le présent.
Premièrement, je ne pense pas que la démocratie délibérative soit la panacée universelle qui a réponse à tout. Précisément, pour conclure, j'essaierai de développer. La démocratie est un régime composite. C'est sa difficulté. Elle combine différents types, non seulement de pouvoir, comme on le sait bien, exécutif, législatif, judiciaire, quelques autres éventuellement, mais elle met en jeu plusieurs processus et qu'il est vain de vouloir ramener un foyer unique. Ça, je crois que c'est déjà un premier pas. En même temps, cette notion me paraît avoir un sens présent, intuitivement très fort chez les acteurs, pour une raison que j'essayais d'explorer, d'élucider, de mettre sur la table. Les compromis, on n'a pas attendu la démocratie délibérative pour les opérer. La démocratie n'est faite que de ça. Prenez n'importe lequel des débats législatifs du jour, la loi sur le renseignement, à l'évidence, vous ne pouvez, sur un terrain comme celui-là, qu'aboutir à un compromis difficile à trouver entre des exigences de sécurité qui supposent l'exercice d'un pouvoir relativement discrétionnaire, ne serait-ce que pour des raisons de rapidité. C'est ce que Locke appelait la prérogative. Difficile de s'en passer. Et puis, d'autre part, la protection des libertés individuelles. Plus toute une série de garde-fous contre les utilisations possibles des renseignements qui sont recueillis de la sorte et qui peuvent servir à d'autres choses que la sécurité de l'État, naturellement, comme dans toutes les situations de ce genre. Bon, les compromis existent. Donc, les démocraties ne sont faites que de ça. Je pense qu'en gros, c'est la sagesse qu'elles ont acquise au XXe siècle de le comprendre. C'est-à-dire, relative irréductibilité du fait de l'adversité, de la contradiction. On ne viendra pas. En fait, les démocraties sont construites sous le signe de la neutralisation d'une guerre civile, à partir de la guerre de classe. Bon, les démocraties d'aujourd'hui, c'est le compromis de classe à la base. L'idée de démocratie délibérative, c'est de rendre ce fait du compromis et de la recherche du compromis plus délibéré. C'est une nouvelle étape dans ce développement. On ne se contente pas de civiliser la guerre civile en faisant en sorte que le jour où le parti majoritaire arrive au pouvoir, il n'envoie pas ses adversaires électoraux de la veille tous en prison. Ça les travaille parfois. L'envie ne leur en manque pas nécessairement, mais ça ne se fait plus. Bon. Mais on peut ne pas s'arrêter là et aller plus loin. C'est-à-dire se dire que si ces compromis existent, c'est pas simplement fonction du rapport de force. En gros, c'est l'âge primitif de la science politique, hein, des démocraties. C'est la grande sociologie politique américaine des années 50-60, ça, qui est une sociologie des rapports de force. La démocratie canalise la guerre civile potentielle sous forme de rapports de force qu'on équilibre tant bien que mal. L'idée de démocratie délibérative arrive avec l'idée qu'il doit y avoir des raisons à ces compromis qui vont au-delà du simple rapport de force et des compromis vaseux dont vous parliez, qui sont, il faut bien le dire, le lot quotidien. Non, parce que c'est pas. Il y a de bons compromis et il y en a de très mauvais. Il y a le célèbre compromis à la Belge, qui relève du grand art politicien, n'est pas toujours un modèle qu'on a envie. On admire la technique qui permet d'arriver au résultat, mais le résultat en lui-même n'est pas forcément admirable. Bon, on peut faire mieux. Et dans l'idée de délibération, je crois, ce qui me paraît au passage infiniment supérieur pour ce motif à l'idée de démocratie de discussion ou de communication ou de démocratie communicationnelle à la Habermas, où on ne sait pas de quoi on parle. Justement, là, on sait de quoi on parle. On essaye d'étayer ces compromis sur des raisons susceptibles de mobiliser un nombre d'acteurs ouverts autour des motifs qui appelle des compromis conscients de la nécessité pour ces compromis d'en être. Pas simplement par le fait que, en l'état actuel du rapport des forces, on est obligé de composer. On peut étayer ces compromis en raison. Voilà, c'est la démarche. Et encore une fois, elle n'a pas réponse à tout, mais elle me paraît pleine de sens. Si la notion est bien comprise. Alors, ce qui devient vraiment intéressant, à partir de là, c'est justement de préciser les objets sur lesquels il y a lieu à compromis, nécessairement. Là, et probablement, ça permet de faire le départ, c'est la question que vous posiez, avec toute une série de domaines qui ne relèvent pas de ces nécessaire compromis entre des facteurs hétérogènes ou des divisions de fond qui sont inhérentes à la chose collective et que on ne dépassera pas. Et donc, il faut se résoudre à des compromis qui, néanmoins, déplacent les termes de ces divisions. Voilà. Je crois que c'est ainsi qu'on peut l'entendre dans un bon emploi.
En fait, je voulais savoir quel est le trait essentiel qui différencie la méconnaissance des sociétés modernes avec celle des sociétés hétérogènes. Parce qu'à priori, il doit y avoir deux types différents, deux natures différentes de méconnaissance dans chaque type de société. Et s'il y en a, donc peut-être qu'on peut expliquer la violence dans les sociétés ou dans les groupes sociaux ou dans, chez les amis qui sont en transition à l'autre à travers cette double connaissance.
Qu'est-ce que vous mettez, pour que je comprenne bien ce que vous voulez dire, sous le mot de double connaissance ?
Double méconnaissance.
Méconnaissance.
Non, j'étais en train de penser de votre exemple, à votre exemple de djihadiste. Ce sont les gens qui sont à la fois, quelque part, intériorisés certaines valeurs de la modernité et en même temps, tout en restant, gardant leurs pieds dans les sociétés environnantes. Donc, ils doivent aussi être rattrapés par cette méconnaissance des modernes. Donc, ils ont déjà leur méconnaissance, disons, religieuse. Que, si vous permettez, je préfère de le définir par une sorte de déni, parce que le religieux n'a jamais voulu accepter la réalité de ce que vous dites. Et donc, il est dans le déni de la réalité. Donc, on peut qualifier la méconnaissance des sociétés hétérogènes par une sorte de déni. Donc, ces acteurs, ils sont à la fois dans le déni de la réalité et à la fois dans les méconnaissances modernes. Et c'est ça, peut-être, un vecteur de violence dans nos attitudes par rapport à la société moderne.
Ils ont un double système de contradictions à gérer, en effet. Bon. Alors, je ne vous suivrai pas simplement sur l'idée du déni comme propre à la méconnaissance religieuse. Parce que ça n'est qu'un aspect du problème. Bon, déni, si l'on veut, oui, déni du fait que ce sont les hommes qui sont les auteurs de leur propre histoire, de leur propre monde. Mais c'est un déni qui articule un monde praticable. On n'est pas dans l'ordre de l'hallucination. Il fabrique un univers réalistement vivable, à preuve en est. Non seulement il a prévalu très longtemps et avec des esprits très réalistes, qui n'y étaient pas moins attachés. Donc, et il a une capacité à faire fonctionner très réellement et très efficacement des sociétés. Donc ça, il y a un élément de réalité. C'est l'articulation d'un déni avec une certaine position de réalité qu'il faut comprendre. Là aussi, ce n'est pas un phénomène simple. À l'inverse, le réalisme ou le pragmatisme producteur de nos sociétés ne les empêche pas d'être aveugles à ce qu'elles font. Ce n'est pas du déni, c'est simplement que c'est repoussé en dehors du champ où l'action a ses repères. Je ne crois pas qu'on puisse se convaincre. À chaque fois, c'est une double articulation qu'il faut saisir et jamais un facteur simple.
Il y a dans ce que vous dites, moi ça me faisait penser là, dans votre exemple du droit et du sujet individuel, il y a dans l'histoire de la prise en charge de la toxicomanie une correspondance avec ce que vous dites. En effet, il y a un livre très bon qui est là-dessus, c'est de M. Ivorel, qui s'appelle « La passion des produits toxiques » ou je ne sais plus, mais enfin c'est très bien. En tout cas, ce qui me semble, c'est qu'au XIXe siècle, avant le XIXe siècle, les prises de drogue sont dans le domaine du sacré ou de la médecine. Bon. Au XIXe siècle, on les judiciarise et on les médicalise. Et il me semble, moi, je me suis occupée de patients toxicomanes pendant 15 ans, qu'ils représentent une des figures de ce sujet composite qui est sans succès, de rassembler, si vous voulez, le champ du droit, le champ du psychisme et le champ de la médecine. C'est vraiment très intéressant. Alors, je ne pourrais pas moi, faire un travail comme ça, mais lorsque vous décrivez de ce sujet sous l'illusion du droit, du psychisme individuel, enfin, du problème moderne, je trouve que le sujet toxicomane et son accompagnement me semble tout à fait intéressant à mettre en parallèle.
J'ai pas de prétention, je n'ai aucune prétention en la matière, faute de connaissances de la question suffisamment développée, mais ce qui me paraît en effet de manière générale très caractéristique comme phénomène pathologique associé à cette figure que j'ai essayé de décrire, c'est l'addiction. Les phénomènes de dépendance extrême, hein, qui sont en même temps très liés à une psychologie narcissique, comme on dit, à une aspiration à l'autosuffisance individuelle qui peut aller à un point extrême, justement. Donc il y a une sorte, je crois en effet, que la figure de l'addiction est d'une certaine manière la figure pathologique la plus significative par rapport à cette configuration de l'articulation individuelle collective. Ça tout à fait.
S'il vous plaît, quand nous évoquons le terme démocratie, nous pouvons focaliser, il me semble, sur l'aspect méthodologie du procédure ou sur la finalité de la démocratie, par exemple une société démocratique. Mais quand on focalise sur la société démocratique ou sur la finalité, ça doit supposer des conditions, c'est subordonné à certaines conditions, notamment l'éducation dont vous parliez, qui devient facultative. Or, ne croyez-vous pas que le maintien des conditions de la société, du bien-être, du vivre ensemble en société, peut ne pas se trouver de façon opposée au maintien ou à la recherche du bien-être de l'individu, dans la mesure où l'individu s'estimant accompli, n'ayant pas, se soustrayant aux conditions d'éducation, peut travailler à l'encontre de la société. Auquel cas, il y aurait opposition entre bien-être collectif et bien-être individuel, c'est-à-dire condition de réalisation des finalités de la démocratie.
Alors, je vous fais observer, pour commencer, que vous supposez trancher une question qui est d'une certaine manière la question qui hante les démocraties contemporaines. C'est celle de la finalité de la démocratie. À beaucoup d'égards, la pente principale de la théorie démocratique contemporaine et à beaucoup d'égards le sens commun démocratique d'aujourd'hui, c'est précisément que la finalité de la démocratie, c'est de n'avoir pas à poser le problème des finalités collectives. Eh oui, c'est ça le point. La finalité de la démocratie, c'est de définir une forme collective où il n'y a que des fins individuelles et où l'autorité publique renonce par construction à la définition de finalités collectives substantielles. Seuls les individus étant en mesure de se donner des fins. Je ne dis pas que c'est nécessairement la bonne réponse, mais il faut partir de là. Et bien évidemment, dans cette version, le problème que vous soulevez n'a pas lieu d'être. Sinon, par rapport à des formes extrêmes, si vous voulez. Tant qu'on n'attaque pas les banques, tout va bien. Il y a des limites, évidemment, dans la définition de ces finalités. Et en gros, on pourrait presque élever ça au rang de principe politique, ou juridique, la vie collective exclut la perspective de vivre aux dépens de la collectivité. Principe de responsabilité individuelle, on peut le pousser un peu plus loin. Donc ça comprend aussi bien la criminalité que le parasitisme social d'une manière beaucoup plus large. Mais en dehors de ça, c'est aux individus d'assumer la responsabilité de leur sort, l'autorité publique n'étant là que précisément pour leur permettre de poursuivre leurs fins personnelles sans que ces fins interfèrent les unes avec les autres. Dans ce cas-là, l'idée qu'il y aurait des finalités collectives en tant que telles, elle est une autre version de l'idée démocratique et dont il faut constater qu'elle est aujourd'hui très nettement minoritaire quand elle n'est pas carrément assimilée à une forme douce de totalitarisme.
Le fond, des questions que nous traitons en cette dernière année, est-ce que c'est bien l'impossibilité pour nous de nous saisir de la liberté de nous gouverner au sens où Machiavel l'entendait, enfin, au sens où vous l'aviez pu entendre dans la conférence avec Charles Melman?
La difficulté que vous soulevez, c'est de savoir par quel bout on prend le problème. C'est au fond toute la question autour de laquelle nous tournons. Se saisir de la liberté, c'est d'une certaine façon présumer un acteur individuel qui se distingue dans le champ collectif par sa volonté de saisir une liberté ou une collection d'acteurs, un regroupement. C'est la manière spontanée dont nous pensons la démocratie à partir des individus. Et je crois précisément que cette manière-là est ce qui ne nous permet pas d'avancer. Parce que dans la ligne des contradictions que j'ai essayé de dessiner, il y a l'inséparabilité et l'impossibilité de tenir ensemble en même temps du point de vue de l'acteur individuel et du cadre collectif. C'est-à-dire, d'où sort cette liberté qui nous est donnée? Elle ne dépend pas de nous, si j'ose dire. Nous pouvons nous déclarer libres, mais nous nous déclarons libres parce que la possibilité de nous déclarer libres nous est offerte. Et ça, c'est pas nous qui l'avons créée. Il faut trouver le moyen de saisir les deux ensemble. Ce que les acteurs font, et il ne s'agit surtout pas de le minimiser ni de dire en somme ils ne comptent pas, c'est la philosophie non dite de notre société. Les acteurs ne comptent pas, bien qu'ils aient tous les droits. C'est les deux à la fois, là ou de nouveau. Il faut penser les acteurs, la liberté et le cadre dans lequel ils opèrent en même temps. Sinon, on oscille sans arrêt d'une alternative à l'autre sans que la moindre issue émerge. Voilà. Ça, c'est la difficulté. Qui est une vraie difficulté théorique et philosophique.
C'est à propos du futur. Vous avez dit tout à l'heure que la démocratie est mieux par compromis successifs. Et est-ce que justement cette évolution par le compromis successif n'efface pas le futur, dans le sens où le futur est déjà dans le présent, puisque les changements sont contenus. Autrefois, on évoluait par crise, donc on cherchait le futur, presque, je dirais, on le demandait, ou on le voyait plus ou moins bien. Tandis que maintenant, il est presque dans le présent, tellement les compromis successifs, en quelque sorte, font que le futur est dans le présent, en fait, c'est l'évolution dans le présent.
Mais il l'était tout autant auparavant. Il l'était tout autant auparavant. Le mode de manifestation est une chose, mais le fond est le même. En effet, quand dans une situation de crise et de rupture, instaure une nouveauté, mais qui était contenue dans la situation antérieure. Et c'est précisément le travail des historiens que de déchiffrer cette continuité cachée dans la rupture, toujours. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'il y ait un changement de fond significatif. Il ne s'agit que des modalités dans lesquelles l'expérience historique se présente. C'est pas un faux problème. Il y a un vrai problème qui est l'évolution d'allure de l'expérience historique dont il faut rendre compte. Pourquoi ça s'est modifié de cette façon? Oui, ça c'est un vrai problème, mais en même temps sur le fond il n'y a pas de véritable changement dans les principes.